Vous écoutez RMC.
Mon Dieu. Bon, on va revenir à mon débat Messi quand même. Parce que c'est quand même très intéressant de parler de Messi, vu ce qu'il a fait cet après-midi.
Pauline, on va faire un débat pluie,
plutôt.
Un débat pluie, oui, bah là on l'a fait, c'est bon. Non mais on peut déjà réécouter Messi. Vous l'avez entendu juste après le match. Absolument. Hier dans l'after, c'était traduit par Georges Quirino, c'était magnifique, on le réécoute.
Franchement, c'est spectaculaire quand je commence. J'aurais pu marquer le penalty et augmenter mon compteur. Mais bon, on ne sait jamais. Je suis content pour le résultat, d'avoir participé à tout ça et le travail de l'équipe.
Ah oui, c'était la version courte. Il me semble qu'il avait parlé un peu plus longtemps tout à l'heure. Lionel Messi, donc, après son doublé. On a Karim qui a fait le 32-16 et qui veut parler de Messi sur RMC à minuit 52 en France. Salut Karim.
Salut tout le monde, salut Damien, salut Simé, salut Jean-Louis, salut Walid. Comment ça va?
Alors Karim, t'as super entendu tout le monde? T'as entendu Omar Da Fonseca parler de Messi tout à l'heure? Qu'est-ce que t'as envie de rajouter?
Moi, je peux dire que, bon, je vais faire un jeu de mots. Ce soir, c'était à Dallas. Messi, son univers est impitoyable, on peut dire, son match.
C'est magnifique. C'est magnifique. Pas mal.
Okay. Eh ben moi, ce que
tu
je veux
pas dire que ça quand même, t'es pas venu juste pour dire ça.
T'inquiète, Daniel, t'inquiète, Daniel. Moi, ce que je veux dire, je sais pas s'ils vont aller au bout. Non, Messi, je suis d'accord. Parce qu'après, moi, je dis pas qu'il y aura des plans anti-Messi. C'est faudrait que devant, on n'a pas le même Julian Alvarez qu'en 2022 parce qu'il n'est pas à 100%. Et on l'a vu aujourd'hui sur la passe de Messi. Le Alvarez de 2022, il y a but. Lautaro Martinez en Coupe du Monde.
Même le Alvarez, il n'y a pas très longtemps. Hein. T'es pas obligé de monter si loin.
Ouais. Après, t'as le Lautaro Martinez, je crois qu'en Coupe du Monde, j'ai une idée, je sais pas ce qui se passe dans sa tête.
Peut-être après, dans le contenu, il est pas inintéressant dans le contenu. Hein.
Lautaro, il court énormément pour l'équipe. Il bosse. Hein. Il est meilleur que face à l'Algérie. C'est lui qui gratte le penalty.
Ouais, c'est ce que rejoint après milieu de terrain. Bah, pour moi, c'est le milieu, comme on dit, pour les détrôner, Enzo Fernandez, McAllister, De Paul. Après, moi, Calmada.
Moi, je pense qu'avec l'Espagne, je sais pas si t'es d'accord, mais avec l'Espagne, c'est le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde.
Moi, je te rejoins de très très loin. Franchement, c'est un milieu, rien à dire.
Et même, j'attends de voir, je pense que face à l'Espagne, avec le milieu à 4, comment ils le disposent, je pense qu'avec l'intensité qu'ils peuvent donner, ils peuvent gêner les Espagnols, je pense.
Moi, j'ai rajouté le truc, je sais pas ce que vous allez penser, même Daniel ou quoi. En fait, l'Argentine de Scaloni, c'est un peu un mélange de Menotti, bon, c'était à l'époque il y a longtemps, et Bilardo. Ça peut très bien jouer au football, comme ça peut très bien défendre, garder un résultat, être compact derrière.
Non, mais il y a un côté caméléon qui est très très intéressant. C'est que, moi, tu vois, l'Autriche, ils sont cassés les dents sur 10-15 minutes où ils auront laissé le ballon, mais sans souffrir, sans aucun problème, en quadrillant très très bien, en fermant les espaces. Et par contre, il y a par exemple une séquence juste avant la fin de la première mi-temps où ils congèlent le ballon pendant 4-5 minutes. Mais ils ont une qualité technique dans les transmissions, une sérénité qui va te permettre d'avancer dans cette compétition. C'est ces équipes-là qui sont capables de gagner des matchs. Et si tu rajoutes à ça, dans les séances de tir au but, un Martinez qui est très très fort et qui est vraiment réputé dans cet exercice, ça va être une équipe redoutable. De toute façon, ils sont dans le chapeau avec l'Espagne, la France et l'Angleterre. Pour moi, le gagnant est dans ces quatre sélections.
En fait, l'Argentine, ils réussissent à faire quelque chose qui est compliqué, qu'on voit peu, c'est transformer une équipe nationale en équipe de club. Parce que ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble, parce que l'équipe est parfaitement construite, qu'elle sait faire plein de choses ensemble et qu'elle dégage une idée collective. Alors que si tu compares l'équipe de France qui a énormément de grosses individualités, le sens du collectif, on a parfois du mal à le trouver. Ça veut pas dire qu'elle sera pas performante, l'équipe, mais on a parfois du mal à comprendre tous les circuits, tout l'ensemble collectif, puisqu'en plus récemment on l'a changé en enlevant un milieu, en mettant un attaquant, et d'autres équipes qui ont beaucoup de très bons joueurs ne dégagent pas toujours un sens collectif compréhensible. L'Angleterre, on cherche encore, même chose pour l'Allemagne. L'Espagne, si on se réfère un peu au passé, l'Espagne 2010-2012, elle ressemblait parfaitement à une équipe de club, parce qu'en plus elle était imprimée par l'esprit Barça. C'est ça, cette Argentine, sa force, c'est ça. C'est que les mecs jouent ensemble depuis tellement longtemps, ils ont un vécu ensemble, qui fait que t'as l'impression que toutes les semaines, ça pourrait être une équipe que tu vois en championnat, qui a son style, sa façon de jouer, le positionnement des mecs, un tel sort, il peut être remplacé par un tel, ça tourne quoi. Et puis on comprend évidemment comment c'est construit, c'est autour de Messi qui est le leader incontesté, incontestable de cette équipe. C'est ça la force de cette équipe d'Argentine, que très honnêtement, je ne m'attendais pas forcément à retrouver dans cette Coupe du Monde, parce que 4 ans c'est long, que les qualifs se sont bien passés, mais que parfois, comme on voit les matchs, on les voit pas, c'est pas toujours extraordinaire. Mais ce qu'il faut aussi se dire, c'est que la plupart reviennent à chaque fois de leur club respectif. Ils se retrouvent pour 3-4 jours. Ils essayent de se remettre à jouer ensemble. Ils jouent des matchs qui sont pas toujours motivants. Donc parfois, on oublie ce que l'équipe peut donner en performance. Et là, dès le premier match contre l'Algérie et le deuxième aujourd'hui, c'est bon, on a retrouvé le McAllister qui était à Liverpool, on retrouve les joueurs à leur top niveau.
Et même un Rodrigo De Paul qui est au milieu de terrain.
Parce que toi, ces mecs-là, on pensait qu'ils auraient pu blesser,
tu vois, De Paul,
même McAllister, pas le McAllister de Liverpool.
Almada qui est pas incroyable avec l'Atlético, ils sont tous sublimés par le contexte collectif de l'Argentine.
Alors sur l'Argentine, il y a un autre truc sur lequel il faut qu'on rebondisse, c'est les déclats de Julian Alvarez. Donc on va en parler dans une seconde, mais d'abord Arthur Perrault nous appelle avec de nouvelles infos peut-être, Arthur.
Oui, puisque la confirmation de ce que je vous disais, hein, certains joueurs de l'équipe de France avaient commencé à sortir dans les coursives de ce stade. On leur a demandé de rentrer de nouveau puisque de nouveaux éclairs ont été aperçus non loin du stade. Donc vraisemblablement on repart dans un processus de 30 minutes. Et pour vous dire, les familles de joueurs qui sont juste en face de moi sont en train de remonter elles aussi. Elles étaient installées depuis de longues minutes. J'aperçois la famille de Lucas Digne d'ailleurs à l'instant même qui se lève et qui est en train de retourner à l'abri puisque la pluie est en train de tomber une nouvelle fois au bord du terrain. Voilà, ça reprend de plus belle.
D'accord, mais là tu peux estimer, donc là tu rajoutes une demi-heure, c'est ça? Là on est parti pour 1h30 du matin en France et 19h30 ici.
Comme il y a de nouveau des éclairs qui ont été aperçus, c'est la logique, c'est la règle.
Ok. Bon, la clameur que vous entendez dans nos micros, c'est juste qu'on est juste à l'endroit où les gens ont décidé de lancer une holla pour s'occuper. Donc ils sont très contents là, ils exultent quand elle prend la holla. Donc voilà. Alors Alvarez, Fabrice Hawkins c'est avec nous, notre spécialiste mercato qui suit l'équipe de France aussi et qui est là à Philadelphie. Salut Fabrice.
Salut.
Re-salut. Donc Alvarez, après le match, donc la victoire de l'Argentine contre l'Autriche, dit ceci. Ce n'est pas le moment d'en parler. D'ailleurs j'adore quand même qu'il dit c'est pas le moment d'en parler. Et il va en parler. Mais je ne peux pas non plus me cacher. J'essaie d'être une personne honnête. J'ai parlé avec les personnes de l'Atlético de Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c'est un transfert. Je veux réaliser mon rêve. Bon, on parle d'un des meilleurs attaquants du monde.
Un neuf qu'on a tous envie d'avoir dans son club, oui.
Voilà. Alors, Fabrice, c'est quoi son rêve? Où est-ce qu'il va aller, Alvarez?
À Barcelone. Il veut aller au FC Barcelone. Il y a beaucoup de clubs qui veulent Julian Alvarez depuis maintenant plusieurs mois. Plusieurs clubs ont été cités d'ailleurs. On parlait du Real Madrid, pourquoi pas, lorsque Florentino Pérez faisait campagne. Il était question d'une offre à 150 millions d'euros et on essayait de deviner où est-ce que cette offre allait atterrir. Il vient pas dans les bureaux de l'Atlético malgré ce qui a pu être dit. La réalité, c'est que le Real Madrid n'a jamais réellement voulu ou pensé le faire parce que tout le monde sait dans le petit milieu du football qu'il veut aller au FC Barcelone. C'est aussi peut-être pour ça que le Paris Saint-Germain a été un petit peu déchauffé, parce que c'est un joueur que la direction sportive et Luis Enrique apprécient énormément, mais de par plusieurs facteurs, son prix c'est vrai, mais aussi cette envie d'aller ailleurs, ils ne se sont pas positionnés cet été.
On a une idée du prix?
En tout cas, plus de 100 millions d'euros. L'Atlético, ils en veulent 150, mais ils veulent surtout pas le vendre, l'Atlético. Ce qu'ils veulent pas, Daniel, c'est de le vendre à Barcelone ou à un club en Espagne. Donc le prix sera sans doute inférieur en Angleterre.
Si lui sort comme ça, c'est aussi pour mettre la pression.
Ah oui, totalement. Non, mais lui, il veut partir. C'est clair, net, précis. Là, en plus, la déclaration, elle est sans ambiguïté. Donc, généralement, je crois que c'est Daniel, tu le dis souvent, on est dans un football où les joueurs sont rois ou presque. Là, quand un joueur sort du bois comme ça pour dire « je veux partir », ouais, il y a quasiment aucune chance qu'il reste, même si
après Fabrice, je trouve la communication quand même
déplacée. En pleine Coupe du Monde, bien sûr.
Ah ouais, Coupe du Monde, faire ça après le deuxième match, tu vas tuer ta Coupe du Monde.
Mais je pense, Walid, parce qu'il y a eu des signaux aussi du club où on lui expliquait qu'il y avait un monde où il restait. Et pour savoir un petit peu comment ça se passe dans ces cas-là, il y a les agents qui disent bon, là ça va être compliqué. En gros, si tu te positionnes pas, tu vas rester.
Faut y aller.
Voilà, exactement. Oui. Et c'est la même chose d'ailleurs qui peut se passer avec un garçon comme Michael Olise. Je pense pas qu'il fera des communications comme ça et qu'il dira je veux partir du Bayern. Mais aujourd'hui, quand le Bayern s'est positionné en disant tu vas rester, il y a aucun monde où tu pars, même à 200 millions d'euros on te vend pas. La réalité, c'est si Michael Olise il arrive, qui pousse la porte du directeur sportif, qui lui dit moi il y a pas un monde où je reste au Bayern Munich, le Real Madrid s'ils envoient ce qu'il faut envoyer, il va partir.
Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, Fabrice, c'est qu'à un moment donné, c'est dangereux, ça peut être risqué, parce que même pour lui, même s'il part, parce que tu l'as dit, souvent 9 cas sur 10, les mecs partent, mais regarde Isaac l'année dernière, ce qui s'est passé à Newcastle, ça te tue un début de saison, ça peut te mettre dans des dans des bourbiers de carrière qui sont pas simples non plus. Donc
mais c'est intéressant la position, c'est intéressant l'exemple que tu donnes Walid, parce que précisément Isaac c'était ça. Newcastle a dit tu partiras pas, et exactement. Là il a commencé à faire grève et ça s'est terminé comme
il part, et après à la fin il arrive, il est pas physiquement, athlétiquement, tu te mets une pression négative, c'est pas simple. Et là le problème c'est qu'Alvarez il est en pleine Coupe du Monde et que l'Argentine l'attendait en tant que titulaire devant Lautaro, un peu blessé, on l'a pas vu, on le voit un petit peu ce
et
soir.
Surtout quand tu as la possibilité d'avoir Lautaro et Alvarez de neuf, que moi perso je trouve extraordinaire. C'est malheureux de te dire qu'il y en a un qui peut être perturbé par ce genre de choses.
Ouais, c'est ça. Oui. Surtout vu ce qu'il a donné en 2022. Mais bon, on va voir, on va surveiller ça. Mais en tout cas, c'est une vraie bombasso.
C'est un bombasso, exactement. Merci Fabrice.
Avec plaisir.
En tout cas pour ces infos.